Et notre invité ce matin dans le 8-30, Léo Walter, bonjour.
Bonjour.
Député NUPES dans les Alpes-de-Haute-Provence. J'aimerais d'abord revenir sur cette information qui est tombée hier. 9 millions d'euros débloqués par la Commission européenne pour la lavande, pour les producteurs de lavande. C'est une bouffée d'oxygène, mais il faut rester sur nos gardes, selon vous?
Alors oui, c'est une bonne nouvelle qui est d'ailleurs saluée par Laurent Despiez ce matin. J'ai rencontré à plusieurs reprises les producteurs de lavande et puis j'étais porteur tout récemment d'une question écrite d'ailleurs au ministre de l'Agriculture sur ces questions. Donc oui, je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle. Est-ce que ça suffira pour sortir la filière du marasme dans lequel elle est plongée? C'est peut-être un peu tôt pour le dire.
Alors, il y a quelques semaines, vous avez interpellé Agnès Firmin-Lebaudeau, ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé, au sujet des urgences de Manosque qui affichent de nouvelles nuits de fermeture et de nouvelles journées de régulation. On manque toujours d'effectifs médicaux depuis plus d'un an. Vous lui avez posé la question, qu'allez-vous faire pour les urgences de Manosque? Et sa réponse est plutôt surprenante. Elle vous a dit, il faut appeler le 15. Comment on doit le prendre quand on est un basalpin?
Ben, on doit le prendre avec d'abord une grande inquiétude parce que la situation des urgences de Manosque est particulièrement inquiétante. On parle quand même d'un service qui concerne un bassin de population de 60 000 habitants et même le double en période estivale. Donc cette réponse n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est une évidence. Je crois que le gouvernement fait preuve d'irresponsabilité de ce point de vue puisque il ne travaille pas à long terme. Donc c'est pour ça aussi puisque on est dans une situation dont on avait alerté depuis un bon moment et rien n'a été fait. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation d'urgence aujourd'hui. Et puis, il ne travaille pas non plus à court terme puisqu'aucune réponse n'est apportée à ce genre de situation.
La loi RIST, n'est pas une réponse. Cette loi RIST, justement, qui plafonne le salaire des intérimaires. On sait qu'il y avait eu une surenchère entre les établissements hospitaliers pour avoir ces intérimaires, si bien que ceux qui ne pouvaient pas payer n'avaient pas d'intérimaires à leur porte. Ça a été quand même un symbole d'équité territoriale, non?
Alors effectivement, cette loi est plutôt une bonne chose si on la prend au premier degré. D'ailleurs, mon groupe parlementaire a voté pour cette loi. Le problème, c'est que c'est fait sans préparation, encore une fois, et sans planification. Et donc, en fait, ces mercenaires, excusez-moi le terme, médicaux, dont il fallait effectivement limiter l'activité, permettaient tout de même aux hôpitaux en déficit de médecins de faire face à ce déficit. Donc, il aurait fallu accompagner cette loi RIST, qui, je le répète, est une bonne chose, de mesures pour permettre aux hôpitaux de trouver d'autres solutions. Alors, il fut un temps où c'était à Sisteron que les urgences étaient fermées. Je vous rappelle 14 mois de fermeture, 57 lundis de mobilisation. Au bout d'un moment, l'ARS avait entendu la revendication des syndicats, qui était de partager la ressource, entre guillemets, la ressource humaine entre l'hôpital de Gap et l'hôpital de Sisteron. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pénurie est partout et que donc on ne peut même pas envisager ce type de solution.
À chaque fois, la direction explique qu'il y a des signaux positifs, qu'on va aller vers du mieux. À chaque fois, on va vers du pire. À quand de vrais signaux positifs? Est-ce que vous avez une information qui vous est parvenue?
Alors non, moi je suis en lien régulier à la fois avec les syndicats, les soignants et avec l'hôpital de Manosque. Mais pour le moment, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution à court terme.
Parlons des retraites. Une prochaine manifestation, ce sera le 6 juin. Aujourd'hui, comment on s'oppose à cette réforme qui est passée? Comment on s'y oppose? Quel sera le débouché politique, la discussion, l'opposition?
Alors le problème, c'est que la discussion, vous avez pu le constater, est fort compliquée à mener avec ce gouvernement qui refuse toutes les solutions démocratiques que nous lui proposons. Donc je crois qu'il y a les deux, il y a l'opposition et puis la proposition. Alors au niveau parlementaire, ça se traduira le 8 juin par l'étude dans la niche parlementaire d'une proposition de loi Liotte pour abroger cette réforme des retraites. J'espère que le gouvernement ne fera pas l'erreur qu'on lui prête dans les rumeurs politiques, à savoir d'essayer de contourner ce débat une fois de plus en invoquant l'article 40 de la Constitution. Donc c'est sûr qu'un vote de cette proposition de loi du groupe Liot serait un message très fort à l'adresse du gouvernement, puisqu'il se retrouverait en minorité, y compris à l'Assemblée nationale, ce qu'il a essayé d'éviter depuis le début en empêchant les votes. Mais après, il y a aussi effectivement l'opposition dans la rue. Vous le savez, je participe à toutes les manifestations, à tous les rassemblements contre cette réforme des retraites pour accompagner les syndicalistes, les citoyens dans leurs protestations. Et je serai le 6 juin dans la rue.
La rentrée scolaire, il y a eu des annonces qui ont été faites, les salaires qui vont être revalorisés en fonction de missions supplémentaires assurées. On le sait, c'est votre métier avant, bien sûr, d'avoir été élu. Là aussi, on va vers des signaux positifs pour les élèves, en tout cas pour les professeurs qui seront plus payés. Ça n'a jamais été fait par la gauche, quand même.
Alors, c'est un peu particulier comme présentation. Je crois que si vous suivez mes interventions à l'Assemblée nationale, j'ai récemment interpellé à plusieurs reprises Pap Ndiaye sur cette question, donc le ministre de l'Éducation nationale. Je crois que ce qui est présenté par Pap Ndiaye ne fonctionne pas. On a pu le voir avec les retours sur les concours de l'enseignement qui viennent d'arriver. On est encore une fois en déficit. Donc le soi-disant choc d'attractivité qu'il prétendait mettre en place apparemment a fait un flop. En fait, ce que propose Pap Ndiaye avec ce qu'il appelle le pacte enseignant, ce n'est pas une augmentation des salaires, mais bien une augmentation du temps de travail.
Pourquoi une augmentation du temps de travail ? Ce qui a été dit par l'inspection académique, le directeur, le DAZN de l'inspection académique des Hautes-Alpes, c'est de dire ils font en effet déjà des heures supplémentaires aujourd'hui, mais on va les rémunérer à la juste hauteur de leur mission. Ces missions, elles sont déjà faites, aujourd'hui on les paye plus.
Ce n'est pas le cas en fait. C'est le discours officiel, mais ce n'est pas le cas. Il y a effectivement un temps de travail invisible des enseignants. C'est la préparation de la classe, c'est la correction des cahiers, des copies, c'est la préparation d'un certain nombre de projets, les classes découvertes par exemple. Si on regarde le contenu des briques du pacte, parce que ça c'est la novlangue macronienne, il faut inventer des nouveaux mots pour cacher de vieilles réalités. Ce n'est pas ce type de missions qui sont reconnues. On propose d'aller faire des heures de classe en collège. On propose de remplacer le collègue absent d'une autre matière dans le second degré. On propose aux enseignants du premier degré, encore une fois, d'aller au collège encadrer du soutien. Enfin bref, c'est du temps de travail supplémentaire. Alors on nous dit qu'il est rémunéré, j'espère bien, mais ça s'appelle des heures supplémentaires payées moins cher que les heures supplémentaires actuelles. Donc non, c'est absolument pas une revalorisation du salaire des enseignants.
Léo Valter, parlons politique. Le nouveau secrétaire fédéral du Parti socialiste des Alpes-de-Provence, Boularès Soltani, n'est pas un grand défenseur de la NUPES. Il le déclarait dans les colonnes de nos confrères de la Provence. La conjoncture de la NUPES ne me convient pas aujourd'hui. Nous sommes toujours mal accueillis. Il considère que le PS, c'est fini. Est-ce que vous lui tendez la main ?
Alors, nous organisons depuis le début de l'année des assemblées populaires auxquelles nous invitons régulièrement toutes les forces de la NUPES. Je note que les jeunes socialistes répondent positivement à ces invitations. Je trouve effectivement dommage que le nouveau secrétaire fédéral du Parti socialiste, lui, considère que ce n'est pas sa place. Moi, il me semble que nous devons répondre à l'attente des électeurs et très clairement, les Français qui ont le cœur à gauche disent qu'ils souhaitent l'union des gauches. La NUPES a répondu à leurs attentes pour les législatives, elle doit continuer à le faire. Donc nous continuerons à construire cette force qui me paraît essentielle.
Vous étiez la semaine dernière à Barcelone pour représenter la France insoumise à l'Assemblée nationale auprès de, alors mon espagnol est très mauvais mais je vais essayer de le dire comme il faut, Barcelona en Comú, et vous soutenez la maire sortante, Ada Colau, une sortante qui appelle à mettre des limites au tourisme dans sa ville de Barcelone. Elle a déjà réduit drastiquement les logements touristiques. Aujourd'hui, elle appelle à limiter les ferries, à limiter l'arrivée d'avions. Est-ce que ce serait un exemple pour les Alpes de Haute-Provence que de limiter le tourisme ?
Alors, ce n'est pas votre espagnol qui n'est pas bon, c'est du catalan, c'est Barcelona en Comú, effectivement. Ce qui signifie d'ailleurs Barcelone en commun. Il est intéressant de noter la convergence avec des réalités à la fois de la France insoumise, puisque Notre programme s'appelle L'Avenir en commun, mais également avec un certain nombre de listes citoyennes en France lors des dernières municipales qui ont porté ce nom, hein, avec le nom de la ville ou du village et En commun ensuite. Il s'agit effectivement de réinventer les communs et le bien commun. Alors, pour revenir au programme d'Ada Colau, on a effectivement une situation à Barcelone, comme dans la plupart des grandes villes touristiques, hein, on peut penser à Paris en France, une situation dramatique pour le logement, puisque les logements touristiques et en particulier les techniques de location de type Airbnb interdisent aujourd'hui aux Barcelonais de se loger, enfin interdisaient avant les mesures prises par Ada Colau et son équipe aux Barcelonais de se loger décemment. Donc la limitation du tourisme, c'est pas exactement comme ça que c'est inscrit dans son programme. Par contre, la limitation du logement touristique, effectivement. Je ne suis pas sûr que les Alpes de Haute-Provence soient dans la même situation. Cependant, effectivement, réfléchir aux formes que le tourisme prend et à ce qu'il fait peser sur les locaux, en particulier en termes d'augmentation des loyers et d'accession à la propriété, me semble une bonne question.
Quand on voit qu'aujourd'hui, à Thonon-les-Bains, il y aura les pavillons bleus, hein, ce fameux label de tourisme durable qui va être remis au port de Plaisance et aux plages en France, qu'il y a 8 plages qui vont être récompensées dans les Hautes-Alpes, une seule à Ubaye-Serponçon dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est déjà un mauvais signal.
Alors, je vous avoue que je n'ai pas suivi la remise du pavillon bleu. En tout cas, il me semble effectivement qu'il faut absolument réfléchir, encore une fois, à l'évolution de l'offre touristique dans notre département et dans nos départements alpins. Excusez-moi, il y a un écho, je ne sais pas si on m'entend.
Est-ce
bien.
Est-ce que c'est mieux ?
Là, ça va, oui, effectivement, merci. Je rencontre, comme vous le savez, depuis le mois de septembre, l'ensemble des maires de ma circonscription, et dans le nord de la circonscription en particulier, en Ubaye, il y a cette question de l'évolution de l'offre touristique, et je pense que c'est une question qu'il faut porter dès maintenant, ne pas faire comme le gouvernement avec les urgences, et donc réfléchir à long terme à une évolution de l'offre touristique.
Merci beaucoup Léo Valter, député NUPES des Alpes de Haute-Provence. Merci.